Courmer, merci d'être venu pour ce cours sur les mangas principalement, mais aussi l'animation, sur l'image du robot dans les mangas et dans l'animation. Le fil directeur, c'est de dire que on va voir à la fois le robot humain, c'est-à-dire le robot japonais qui a une forme humanoïde, donc bipède. On va passer par les grands robots, les robots gigantesques, qui est une particularité de la science-fiction japonaise graphique. Pour terminer avec la figure du cyborg, c'est-à-dire l'humain devenu robot, et de voir les différences de statut, et d'un statut du robot humain qui est plutôt quelque chose de conçu comme finalement assez, qui peut être positif, jusqu'à l'humain robotisé, le cyborg, qui lui est un aspect beaucoup plus tragique. Donc, et de voir le rapport du Japon avec la technologie à travers ces figures. Pour commencer, la première figure à laquelle on doit penser absolument, c'est Astro, le petit robot en français, Tetsuo Anatomu en japonais, qui est d'une création du dieu du manga, qui s'appelle donc Osamu Tezuka. Et Tezuka donc a créé ce personnage d'Astro. Ce qui est vraiment intéressant à noter chez Tezuka, c'est que donc il produit ce personnage donc en 51 et donc destination des enfants, et il va créer un personnage donc d'adolescent, et il le dote d'un cœur atomique, c'est-à-dire que pour ce pays qui est connu, Hiroshima et Nagasaki, le personnage positif d'Astro va avoir un cœur atomique. Et chez Tezuka, il y a la volonté explicite de remettre un lien entre le Japon qui sort de la guerre et la technologie. C'est important parce qu'il faut savoir que donc, le Japon est un cas où, quand à l'ère Meiji, le Japon s'est de nouveau ouvert au monde, ils ont accueilli la science occidentale et ils ont construit toute une idéologie autour de la science et de la technologie, avec l'idée que on avait Wakanjosa, la science occidentale et l'esprit japonais, et qu'on pouvait utiliser les deux pour être compétitif face aux puissances occidentales. Le contre-exemple étant la Chine, où la Chine a été totalement sous domination occidentale. L'apogée de cette puissance japonaise avant la Seconde Guerre mondiale, c'est la défaite de la marine russe qui a été battue par la marine japonaise en 1905, si ma mémoire est bonne, je crois. Par la marine japonaise, non pas parce que la marine japonaise était plus nombreuse, mais parce que les marins japonais avaient une technologie de grenade plus performante que les Russes. Donc c'est par la technologie qu'ils ont supplanté leur adversaire. Sous la Seconde Guerre mondiale, on a une apogée justement de cette idéologie de la science, de la technologie, plutôt de la technologie qui peut permettre de triompher de l'adversaire avec développement de moyens lourds, porte-avions et autres, mais sauf qu'ils vont se retrouver submergés par quelque chose qui est la puissance industrielle américaine. C'est-à-dire que quand vous recevez des milliers et des milliers de bombes, il y a un moment, la technologie, ça devient un problème, plus des problèmes de ressources. Bref, on aurait pu croire que, suite en plus avec les bombes atomiques, il y aurait eu un divorce du rapport entre le Japon et la technologie. Donc c'était une crainte qui était légitime finalement, à partir du moment où c'est un échec pour le Japon de voir que toute leur puissance technologique a été effacée par la puissance industrielle américaine. On pourrait se dire, finalement, cette science, cette technologie occidentale, il faut s'en débarrasser, ça ne nous convient pas en tant que Japonais. Et donc tous les auteurs, il y a toute une idée comme ça de l'après-guerre, on va essayer de réconcilier le Japon avec la technologie. Et donc Tezuka, c'est ça. L'autre aspect qui est très important, c'est un héros jeune, un héros adolescent. On est pourtant sous domination américaine. On aurait pu croire que les Américains auraient déversé sous le Japon leurs comics et que les héros japonais auraient été finalement ces super-héros adultes américains. Mais non, c'est-à-dire cette génération de dessinateurs, il s'agit de couper aussi avec la génération Meiji, la génération des responsables de la guerre. Et donc, on va essayer de promouvoir une idée plus positive du futur à travers une régénération par la jeunesse. Donc, Astro est donc un adolescent, parce que c'est la nouvelle génération qui peut nous terminer avec tous les errements du passé. Donc, on a ce Astro, ce qu'il essaye de faire, c'est assurer la coexistence entre les robots et les humains. Donc on est dans une société du futur avec des robots qui se développent, et je veux dire, que va-t-il se passer entre robots et humains, et même il y a un développement de cette idée que ces robots japonais, donc chez Tezuka, peuvent développer des sentiments. On a des i-robots, i en japonais, c'est les sentiments, c'est l'amour, donc des robots qui peuvent développer des sentiments. Et autre idée, on a un adolescent. Et une bonne partie de l'histoire au début, c'est que le héros doit apprivoiser sa propre technologie. C'est un aspect important, et donc il y a un aspect d'éducation. Donc on peut contrôler la technologie. Cette technologie adolescente qui est un peu éruptive, qui peut être dangereuse, elle peut s'éduquer, elle peut se contrôler. Et chez Tezuka, il y a un aspect effectivement d'enthousiasme de la technologie, mais aussi de conscience que la technologie, il faut la maîtriser, la contrôler, il faut la canaliser. On a ça donc en 51, juste pour information, la série, donc le manga de Tezuka va durer jusque dans les années 80. Par contre, la fin d'Astro est assez négative, c'est-à-dire qu'on a une lutte, une guerre entre humains et robots, et qui finit assez mal. Alors je vais assez vite pour vous diffuser vraiment une rareté. C'est le premier épisode de la série d'animation Astro, avec l'année, ça n'a jamais été diffusé en France, c'est pour ça que vous avez des sous-titres en anglais, et ça a été diffusé aux États-Unis mais pas en France, et on a la première image de la naissance d'Astro. Donc est-ce que ça va, allez s'il vous plaît, allez. Ça part pas. Ouais, on va faire autrement. Voilà. Sur le plan technique, le Tezuka, c'est ce qu'on appelle de l'animation entière, c'est-à-dire qu'il y a 4 à 5 images par seconde, ce qui permettait à Tezuka de produire un épisode par semaine à des tarifs défiant toute concurrence. Et la mauvaise image de l'animation japonaise, c'est lié à ça. Parce qu'avant, il y avait une tradition de l'animation japonaise qui était beaucoup plus de qualité.
の手をわしの取った一人の扉そうと扉を生き返させるロボットを作るのだ。わしの命をかけた最高の科学芸術品扉を永久に死なないお前を作ってやると永久に死なないお前をというわけで科学省は総力を挙げてこのロボットを完成させる。どんなことがあっても完成させなければならない。しかもこのロボットは精密機械と最高の電子を持った世界には数がないのが変であろう。技術力は十分ある。博士はバーガー。
博士はバーガ
ー。
博士はバーガ
これだけは絶対に守っていただきたい。完成目標は1年後の今日即時の検討を得な。
Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas vraiment le temps, mais c'est, Ensuite, ils ont refait en 80 la même série où ils ont repris comme musique Ainsi parlait Zarathoustra, mais ça donne moins bien. C'est moins émouvant que je trouve que c'est ça. Donc, Astros, c'est ce premier robot. Et ensuite, on copie ce modèle. Alors, il y a plusieurs copies, donc j'en donne quelques-uns. C'est un peu la descendance d'Atomo. Là, qui n'est pas un humain, mais c'est un chat-robot, mais c'est le plus célèbre du Japon et même en Asie, c'est Doraemon. Doraemon, c'est un chat, c'est un robot-chat du 22e siècle qui est envoyé remonte dans le temps, qui a des tas de gadgets qui permet au personnage qui est un cossard, enfin, qui est un mauvais élève, de pouvoir apprendre ses leçons sans travailler ou pas. Enfin, avec un aspect moral, c'est très amusant, mais c'est une figure de robot aussi. Et aussi donc Akira Toriyama, celui qui a fait aussi Dragon Ball, Dr. Stump aussi, on met un robot au milieu des humains et ça se passe bien. Ce n'est pas conçu comme quelque chose de problématique. C'est tout va bien, enfin c'est amusant, c'est assez sympa. On imagine que le robot qui vit parmi les humains, ça soit quelque chose de positif. Alors il y a un autre aspect positif qui est les esclaves et servantes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, et ça existe dans d'autres séries, des robots serveuses, esclaves. Alors ça, c'est un personnage de série de Clamp qui s'appelle Chobits. Et où là, en fait, c'est un ordinateur qui a une forme de fille. Avec un... Alors juste pour le gag, alors savoir que ça a été donc fait par le studio Clamp, qui est un studio de filles, quatre nanas. C'est important parce que pour apprécier ce que je vais dire maintenant. C'est que, par exemple, pour allumer cet ordinateur... il faut appuyer sur un bouton qui est situé quasiment à l'entrejambe. Donc vous voyez le truc. Donc c'est un ordinateur personnel sous forme humaine. Et on a un héros qui n'est pas un geek, hein, c'est juste, il faut le savoir, mais qui va devoir éduquer cet ordinateur qui est doté d'émotions. Donc une sorte de figure de Pygmalion moderne. Et alors, donc Shi, c'est une femme enfant qui est avant tout mignon. Ce qui est intéressant, c'est la fin. À la fin du manga, donc, il y a une relation qui se noue entre le héros et l'ordinateur. Et il est possible qu'il y ait une relation sexuelle entre l'ordinateur et le personnage. Sauf qu'elle n'aura pas lieu, parce que si le personnage, le héros, a cette relation, elle va rebooter. Et donc, elle va perdre la mémoire de tout ce qu'elle était. Donc, il n'y a pas de relation, il ne consomme pas. Pour garder la mémoire de sa personnalité et les relations émotionnelles qu'il a avec cet ordinateur. C'est là où on voit que c'est les clamps, où c'est assez vicieux quand même comme concept final. Il n'y a pas de consommation pour garder la personnalité, voilà, tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Donc c'est ce robot, mais qui est vu quand même de manière positive. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça marque aussi une sorte d'effet science-fiction, ça, parce que ces robots, et Astro en particulier, ont donné à l'ingénierie japonaise l'envie de développer des robots qui coexistent avec les humains. Donc, ceux qui s'en souviennent, c'est des années 90, Sony avait fait un chien-robot, Aibo, et la robotique japonaise s'est axée sur la construction de bipèdes, de robots bipèdes. Ce qui est une aberration en termes d'ingénierie, parce que la bipédie avancée sur deux pieds, c'est quand même une suite de déséquilibre. Il y a quand même des moyens beaucoup plus rationnels de faire avancer des machines. Mais ils ont avancé ça parce qu'ils ont cette idée qu'il faut qu'il y ait un robot avec des jambes, parce que c'est l'imagerie qu'ils ont, cette façon qu'ils ont de concevoir. C'est pour ça que j'ai mis donc le robot rondin qui s'appelle Asimo, référence à Asimov, hein, bien sûr, et cette image-là qui ressemble à cette image d'Astro, voilà, qui est positive. Donc ça, c'est un aspect. Et il faut aussi, je voulais montrer aussi une autre petite vidéo, là par contre j'ai enlevé le son, qui montre que cette image du robot, c'est pas uniquement moderne ou lié à Tezuka. Il y a une tradition de la robotique, de la marionnette, de l'automate, qui est très ancienne au Japon. Donc c'est une petite vidéo qui montre... je peux pas enlever le son, je vais juste le baisser. Voilà. Donc ça, c'est le Bunraku, donc, c'est-à-dire ce sont des marionnettes, on voit les marionnettes derrière en noir, donc parce que normalement il y a un écran en noir derrière, donc on manipule, il faut 3 manipulateurs par marionnette. Ensuite, ce sont des automates, on voit, donc c'est juste à la frontière de l'Hermégie. Non, mais avant l'Hermégie. Donc avant l'arrivée de l'Occident. Donc ça, c'est de la technologie indigène, si j'ose dire. Et voilà un serviteur, un robot serviteur. Mais c'est un automate. Et le robot Honda en action. Alors on peut se demander pourquoi il n'y a pas comme chez nous, on a l'image du robot, c'est très vite Terminator ou autre, pourquoi il n'y a pas cette imagerie dominante du robot négatif et qui est au contraire un robot positif et même de la part des sociétés qui produisent ces robots, cette idée que même le Japon est une société qui vieillit et donc la question c'est que fait-on des vieillards? On peut pas, il y a un problème de place, on ne peut pas les mettre tous dans des maisons de retraite, donc il faut essayer que les personnes âgées puissent vivre le plus longtemps chez elles. Mais comment le faire de manière autonome? Et l'idée c'est on va produire des robots. Non seulement les robots vont servir, vont pouvoir faire un service, mais aussi, ça c'est pour un occidental c'est très différent, on dit ah oui les robots c'est aussi une présence. Et donc c'est quelque chose qui va interagir avec les humains et ça va être une présence positive. C'est pas vu comme quelque chose de froid. On peut se demander pourquoi donc c'est conçu comme ça. Alors je fais une hypothèse. Là c'est purement une hypothèse de ma part. Hein, c'est que ça c'est quelque chose qui est lié à la tradition mystique japonaise du Shinto. Le Shinto donc il y a beaucoup ce qu'on appelle les kami, les esprits. Et notamment les choses, les pierres, il y a un esprit du peigne, un kami du peigne, par exemple, les choses peuvent avoir un esprit. Et donc cet esprit, donc le robot, on peut concevoir, c'est assez facile pour un japonais de concevoir qu'une machine puisse être une présence, comme ça serait un kami. Je partirais sur un cyborg pour voir que ça a des conséquences aussi négatives. Mais donc, je veux dire que le pas à franchir pour se dire « j'ai un robot », ça peut être une présence, c'est plus facile de le faire quand on est habitué au Shinto que quand on est finalement dans une tradition catholique où on a ce qui est la caractéristique de l'humain, c'est l'âme. Vous voyez, c'est pas qu'il n'y a que les humains qui ont une âme. C'est pas la même chose. Tandis que un esprit, ça peut être attribué à des choses. Donc, je crois que là, ça, je ne dis pas que c'est parce qu'ils sont Shinto que, mais c'est ce qui permet de faire. De passer le pas pour attribuer ça. Donc, bien sûr. Donc ça, sur la question du robot humain, pourquoi ça va. Et on passe donc au robot gigantesque, dans le métal, dont le premier c'est, je vais dire Tetsujin 28, je vous ai pardonné le nom en japonais, c'est Nijurochi, enfin, Hachi. Nijurochi. Donc, c'est 58, hein, c'est plus ou moins contemporain de Tezuka quand même, c'est pas très très éloigné. Et c'est intéressant, c'est l'histoire de ce robot, c'est que l'histoire, c'est qu'en fait, le Japon, donc dans le manga, le Japon avait produit des armes secrètes, comme les nazis, et parmi ces armes secrètes, il y avait ces robots, Tetsujin. Tetsujin, c'est donc l'homme de métal. Et sauf que l'usine a été bombardée par les Américains, donc les Japonais n'ont jamais pu utiliser ces armes. Et on se situe donc très loin après la guerre, et on redécouvre l'un de ces robots. Et le professeur qui découvre ces robots a un fils, Shintaro, je crois. Et qui, alors, donc le père meurt et c'est le fils qui détient le robot, mais détient quoi? Détient une télécommande. Donc, les caractéristiques, c'est un robot piloté par télécommande qui n'a pas de conscience, c'est-à-dire qu'il va faire le bien ou le mal suivant son propriétaire. C'est-à-dire que si les ennemis ont la télécommande, bah, ce sont les ennemis qui vont faire le mal, et c'est contrôlé par un adolescent. On a la genèse de tous les robots qui vont suivre par la suite de ça. Donc, juste pour montrer, c'est le générique, mais c'est intéressant, j'en parlerai de ces génériques de robots. Par contre, je remets le son. Alors à partir de ce modèle, les suivants, il y a avoir ce que je vais appeler l'école orthodoxe, c'est-à-dire une manière orthodoxe de concevoir ces robots gigantesques. L'un des représentants, mais qui date bon, 60, fin 60, 70, c'est Gonagai, qu'on connaît en France avec Goldorak, mais au Japon, la série majeure, c'est Mazinger Z. Ce qui est intéressant dans la plupart de ces robots, c'est la matrice, c'est que souvent, ce sont des robots issus d'une technologie étrangère. Vous savez que Goldorak, ben, le robot, c'est un robot extraterrestre. Mazinger Z, l'histoire est assez amusante, c'est-à-dire que en fait, c'est une expédition archéologique qui va sur l'île de Rhodes. Et donc, les merveilles du monde, tout ça, ils découvrent un robot gigantesque produit par les habitants de l'île de Rhodes il y a très très longtemps. Et donc, il y a un conflit à l'intérieur de l'équipe archéologique et le gentil professeur ramène le robot qui ne fonctionne pas. Hein, et on ne sait pas il n'y a pas d'énergie pour le faire fonctionner. Et donc, il le ramène au Japon et là, dans les entrailles du mont Fuji, on trouve un minerai qui s'appelle le japonium, et grâce à ce japonium, on arrive à redonner vie à ce robot qui permettra de vaincre les ennemis, etc. Donc, bon, il faut savoir que Gonagai a un aspect un peu humoristique dans ses mangas, donc là, il faut voir, il y a un aspect d'humour, hein, c'est volontaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a des robots qui fonctionnent comme des pères adoptifs. Hein, souvent, le père a été tué, il meurt très vite. Et donc le pilote, l'adolescent ou autre, donc fait un transfert du robot. Il faut apprendre les pouvoirs du robot. C'est la phase de l'adolescence. Hein, je dois apprendre. Mon corps change de certaine manière et donc je dois m'habituer. Et ce qui est intéressant aussi à noter, on revient à une idée ancienne, c'est-à-dire que ce sont des robots issus de technologies étrangères qu'on peut piloter par des adolescents japonais. Donc c'est science étrangère, on va dire science occidentale, et esprit japonais. À tel point que la grande invention, ce qui a fait le succès de Gonagai, c'est sur le pilotage de ces robots qui se fait en donnant les ordres, c'est-à-dire figure au point, tout ce genre de choses. Mais à quoi ça fait penser quand on est japonais? Bah, finalement, au cri d'attaque dans le kendo. Hein, c'est-à-dire on annonce ses attaques, on les crie, donc c'est la même chose. Donc finalement, ces armures, c'est des armures de samouraï, c'est des armures de combat. Donc on fusionne finalement ce qui est japonais. Hein, pourquoi donc les pilotes japonais arrivent à s'en sortir? C'est à travers ça. Donc l'école orthodoxe. Et l'autre école, hein, c'est intéressant, qu'elle arrive sur la fin des années 70 et début des années 80. C'est ce qu'on a, alors je montre quand même le générique. Allez. Oh, pas mal le son. Elle ne veut plus mettre le son. Elle est bête. Non. Bon. c'est extrêmement classique. Vous n'avez pas la merveilleuse musique. Donc, dans les années 80, on a une autre manière de concevoir le robot. Alors, les grandes séries de l'époque, les vraiment extrêmement grandes séries, il y en a deux, c'est Gundam et Macross. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la différence. Dans le Japon de Tezuka, c'est un Japon en reconstruction, et donc qui est dominé par la puissance américaine. Dans les années 80, c'est le Japon de l'apogée industrielle. C'est-à-dire que le Japon se découvre comme une puissance industrielle. Et donc, les robots qu'ils construisent, c'est des robots de l'ère industrielle. Ce sont des robots qui se déclinent de série, c'est-à-dire que dans Macross, ben, si vous avez un robot qui perd un bras, eh ben, c'est des pièces détachées, alors que dans tous les autres robots, ce sont des robots uniques. Donc ici, il faut les réparer, tandis que là, il suffit juste de modifier des pièces. On a des conflits globaux qui impliquent parfois, dans Gundam, l'humanité tout entière. Il n'y a pas de relation paternelle entre le robot et le pilote. Donc vraiment, on a une différence de conception, et on va s'intéresser même pourquoi ces robots existent, comment on les pilote. D'ailleurs, on va se réfléchir sur comment on peut réalistiquement piloter ces grands robots. Donc ça, c'est vraiment un pas énorme, c'est ce qu'on appelle l'école réaliste. Dans Gundam, par exemple, celui qui a fait Gundam a fait du design industriel et s'est posé la question... Alors, ces robots, comment ils peuvent exister? Parce que s'ils sont en fait sur le sol, bah, ils ont un poids tellement énorme qu'ils ne peuvent pas se déplacer vraiment, donc ça pose problème. Enfin, il y a toute une réflexion sur pourquoi ces robots existent. Donc, on a vraiment cette idée d'une école plus réaliste. Est-ce que je vais avoir le son? Oh, c'est bête. Oh, c'est bête. Mais c'est bon, ce qui est intéressant, je voudrais. Bon, je vais le dire en passant, mais j'y parlerai en même temps. Ce qui est très intéressant à noter, donc on voit. C'est une série de robots qui commence, en fait, de manière réaliste. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sur un porte-avions avec des avions de chasse. Donc on a une idée assez réaliste du truc. Et autre différence. La première image, c'est celle du pilote. Dans toutes les autres séries. Qu'a-t-on vu? Les robots. Les pilotes humains, les humains, on les voit très très peu. Tandis que là, ce qui va apparaître en premier, c'est l'humain. Et on voit le héros à plusieurs reprises. Donc on met en avant les personnages, les humains, et plus simplement le robot.
J'ai une question. Les traits des personnages sont toujours occidentaux.
Ah oui, alors ça, je pourrais, je vais pas en parler maintenant parce que c'est très long la réponse. Donc, mais c'est en fait, c'est qu'ils ne sont pas occidentaux, ils sont totalement japonais en fait. Ah. C'est juste une différence de représentation. C'est-à-dire que nous, on représente en BD les personnages de manière réaliste, tandis que eux, c'est une représentation expressionniste. Donc, du coup, ce qui intéresse dans le visage, c'est le miroir de l'âme. Et donc, il faut qu'ils soient faits d'une manière qu'on puisse repérer tout de suite leurs émotions. Et donc, ils sont stylisés. Et donc, ça nous paraît occidentaux. Mais eux, ils reconnaissent bien que ce sont des Japonais. Un, par les cheveux qui sont droits. Ils font faire, par exemple, des traits avec un nez droit. Ce qui est propre des Japonais par rapport aux autres peuples asiatiques. Ils ont une manière de concevoir. Et c'est... Quand ils représentent, par exemple, des occidentaux, ils ne représentent pas du tout de la même manière. Donc, c'est des choses différentes. Bien, c'est la réponse courte. Dernier cas de robot gigantesque, qui est un cas à part aussi, c'est Evangelion. Où là, on a un mixte entre tradition orthodoxe et réaliste, et pour produire encore quelque chose de différent. Là où on a une relation conflictuelle entre le père et le fils, on a des robots qui sont à la fois de série, mais qui sont en nombre limité. Donc on ne peut pas avoir des pièces de rechange, hein, parce qu'on a des robots uniques, mais on a des EVA 01, 02, 03, donc on est à la frontière entre réaliste et orthodoxe. Et on a un pilotage qui est censé être réaliste, parce qu'il y a une sorte de synchronisation mentale, c'est-à-dire on plonge les pilotes dans un liquide, Et c'est un liquide qui fonctionne en fait comme un liquide amniotique, hein, c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes, et qui permet de synchroniser le pilote avec sa machine. Et aussi, oui, des ennemis inconnus, des anges qui arrivent un par un. C'est un peu un hommage à Goldorak. Vous savez que Goldorak, hein, c'est la stratégie militaire des adversaires, c'est d'envoyer leurs Golgoths un par un sur la planète Terre, plutôt que de les envoyer tous en même temps, ce qui résoudrait le problème. Bon. Et bien ça, c'est un peu ce qui se passe dans Evangelion. Et surtout, pourquoi c'est quelque chose d'important dans l'histoire des robots, c'est qu'on se rend compte que c'est un robot féminin. Le EVA-01 piloté par le héros Shinji, en fait, il va sentir dans le liquide une odeur, un parfum. Il se dit, ce parfum, ça me dit quelque chose. Il découvrira plus tard qu'en fait, c'est l'odeur de sa mère qui s'est dissoute dans le robot lors de l'expérimentation. Donc la mère est à l'intérieur du robot. Donc ça, c'est pour ça que c'est absolument important comme série. Pour transition, je vais vers une série qui est absolument peu connue, mais qui me permet de la transition du robot gigantesque à l'humain robotisé. Donc c'est une série qui s'appelle Five Star Stories. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est un pilotage à deux. C'est-à-dire que vous avez un humain et un humain génétiquement modifié, conçu artificiellement, les Fatimas. Et donc ces Fatimas conçues génétiquement, elles ont la capacité, pourquoi elles sont-ils? Parce qu'elles ont une capacité mentale, une vitesse d'analyse qui leur permettent de piloter, de pouvoir gérer ces robots gigantesques. Donc c'est le propriétaire humain peut en disposer comme il veut. Une fois il est propriétaire de la Fatima, il peut en faire ce qu'il veut. Donc il peut la violer s'il veut, enfin il peut faire ce qu'il veut. Mais à la base, c'est la Fatima qui choisit, une sorte d'intuition qui fait que c'est elle qui choisit son propriétaire. Et juste par plaisir personnel. Alors, pour montrer ça, donc il y a des schémas pour montrer comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, on a une cabine de pilotage où on a l'humain qui est en bas et la Fatima qui est en haut. Donc il y a vraiment des schémas pour expliquer comment ça se passe, donc en duo. Juste pour le plaisir. Donc c'est parmi voilà, des robots qui sont à la fois gigantesques, avec des formes assez exceptionnelles. Mamoru Nagano a fait du stylisme. Et donc on emprunte de stylisme avec des tenues, même les personnages ont des tenues extraordinaires et les robots aussi. C'est parmi, dans l'histoire des jouets, des maquettes des robots, c'est parmi les robots reconnus comme étant les plus beaux, les plus particuliers au Japon. Donc juste ça. Ça permet de faire la transition entre ces robots gigantesques et le cyborg, puisqu'on a les Fatimas, ce sont des personnages génétiquement créés ou génétiquement modifiés. Donc juste pour que je présente l'ancêtre, pour savoir d'où ça va, mais ça va donc de ce qu'il appelle Cyborg 009, donc qui date de 63, vous voyez ce genre de choses. Donc modifié, donc existant et modifié. C'est l'un des rares cas de cyborgs mâles. Parce que tous ceux que je vais vous montrer par la suite, ce sont des cyborgs féminins. Donc il y a très, très peu de robots, de cyborgs mâles. Donc la malédiction s'acharne sur les femmes à ce niveau-là. Alors que, vous voyez, vous avez Astro, les robots sont peut-être masculins. Donc voilà, les combattantes, juste deux. Donc, pourquoi ce sont des aspects tragiques? Dans Gunnem, c'est donc une combattante, un cyborg qui a perdu la mémoire, qui s'est retrouvé son identité. Dans un monde du futur où l'élite de ce monde a la possibilité de mettre son cerveau sur une puce, donc d'électroniser entièrement son cerveau et les conséquences sur ce qu'est l'humanité. Et l'autre, c'est donc dans Ghost in the Shell, où toute l'histoire de ce manga, qui a été ensuite en film chez Mamoru Oshii dans les années 95 et après, l'idée, donc, on est dans un monde où donc on est sur une section d'espionnage, enfin de contre-espionnage, donc ces combattants peuvent se cyborgiser, mais cyborg jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que Kusanagi, donc l'héroïne, n'a plus une pièce d'origine, pour faire simple. Et même, on peut avoir une copie électronique du cerveau. Donc, le gosse, hein, on peut. Donc, la question qu'elle se pose, à partir du moment où j'ai quasiment plus rien d'humain, est-ce que je suis encore humaine? Et dans le même temps, c'est l'histoire du premier film Ghost in the Shell, le réseau, les intelligences artificielles ont des capacités tellement grandes qu'elles commencent à devenir conscientes et se rapprocher de plus en plus des humains. Il y a cette idée que finalement on est dans un instant dans ce monde, on a un instant de l'humanité où les humains se mécanisent, où les intelligences artificielles s'humanisent, et qu'il y a un moment les deux branches vont se rencontrer. Que se passe-t-il au moment où les deux branches d'évolution se rencontrent? Ça, l'histoire de Ghost in the Shell. Donc c'est vraiment cette idée de fusion, de nouvelle humanité à travers cette humanité qui se mécanise et se... ça va être bon. Et cette informatique, ces réseaux, ces intelligences artificielles qui prennent conscience, qui deviennent des entités, des êtres vivants. Mais c'est des aspects un peu tragiques. Deux exemples de cas tragiques. C'est l'arme ultime, qui s'appelle aussi, résumé aussi de temps en temps comme Saikano, qui s'appelle Saikano. L'idée, on est dans un... Il y a un conflit. Le Japon est en conflit avec une puissance qu'on ne détermine pas. Et au Japon, ils ont mis au point une arme absolument fabuleuse qui va être capable, même au fur et à mesure qu'elle se perfectionne, de détruire des villes entières. Et cette fille, c'est une lycéenne qui a une arme à l'intérieur de son corps. Parce que la tragédie, c'est que elle est la seule capable d'accepter, enfin son corps, le CCU, sont les seuls capables d'accepter ses armes. Mais en même temps, plus on avance dans l'histoire, plus elle perd de plus en plus son humanité. La seule chose qui la raccroche à l'humanité, c'est la relation avec son boyfriend. Enfin, pour là, je fais simple, boyfriend. J'aurais dû dire un mot en français, mais j'ai d'un coup un blocage. Et donc, c'est la dernière chose qui la rallie à l'humanité. Mais elle se mécanise, elle devient une arme, l'arme ultime. Le jeu de mots du titre français est très bon, d'abord parce que l'histoire est absolument dramatique, on peut s'en douter, et que c'est l'arme ultime effective. Et autre série qui s'appelle Gunslinger Girl, ça se passe en Italie, où c'est de l'action antiterroriste contre des séparatistes du nord de l'Italie. Et l'idée, c'est que pour atteindre ces terroristes, eh bien, ce qui est le mieux, c'est des petites filles, parce qu'on ne se méfie pas trop des petites filles. Et donc il y a une sorte de duo, de binôme, entre un fratello, donc un père qui s'occupe de ses, qui a la charge de ses petites filles, et ces petites filles, en fait, ce sont des cyborgs. Des cyborgs, en fait, toutes ces filles ont eu un destin tragique. Par exemple, Henrietta, qui est celle au centre, pour vous dire le genre de destin tragique, c'est que sa famille a été massacrée par des cambrioleurs. Elle a été multiviolée, enfin, vous voyez le genre, et donc a été tellement traumatisée que la solution, ça a été de la récupérer et lui faire une sorte de lavage de cerveau, de la reprogrammer pour en faire une tueuse, pour en faire ce binôme de Gunslinger Girl. Et il y a plusieurs aspects, c'est que c'est la première génération de ces cyborgs, mais elle n'est pas encore au point. Et donc ces personnages vont perdre leur capacité de temps en temps, il faut les reprogrammer de temps en temps, et elles savent qu'elles ont une durée de vie limitée. Pour les fratellos, ça pose problème. Est-ce que je dois m'attacher à ces petites filles qui, à un moment, ça va s'arrêter? Donc il y a cette question-là, du lien entre le fratello et son cyborg. Et autre lien, c'est que ces petites filles sont des tueuses naturelles. C'est-à-dire, par exemple, il y a un dîner entre le fratello et sa petite fille. Et à un moment, le serveur commet l'erreur, en débarrassant les couverts, d'approcher le couteau un peu trop près du fratello. En un quart de seconde, le serveur est mis à terre avec une clé de bras, et quasiment elle est capable de le tuer. Alors à un moment, le fratello dit non, mais il faut laisser, c'est juste un serveur. Et en fait, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était dangereuse. Ça n'atteint pas sa conscience. L'idée justement de ces cyborgs, c'est que l'idée de tuer n'atteint pas leur conscience. Et donc, par contre, ce qui va faire qu'elles vont se poser beaucoup de questions de conscience, c'est: mais qu'est-ce que c'est qu'être une petite fille? Qu'est-ce que c'est qu'être une adolescente? Et elle se pose la question: comment je dois me comporter? Donc il y a une sorte d'inversion, c'est-à-dire que le métier d'être tueuse, normalement, ça doit être quelque chose de la conscience, on doit avoir un aspect conscient, c'est quelque chose qu'on apprend. Là, c'est pas vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui est programmé en elle, de manière plus ou moins inconsciente. Par contre, être une jeune fille, ça devrait pas être quand on est aussi jeune, être quelque chose de conscient, ça doit être assez naturel, même si c'est problématique pour un adolescent. Et là, pour elle, c'est ça, leur problème de conscience, c'est que comment je dois me comporter pour être une adolescente. Donc c'est intéressant, vous voyez qu'il y a un aspect tragique, ça va être bon, il y a un aspect tragique du cyborg par rapport au robot. Autant le robot, c'est quelque chose avec lequel on peut vivre facilement, autant le fait d'avoir de l'électronique, de s'électroniser, de devenir une machine, c'est tragique. Et donc, pour les Japonais ont beaucoup plus de problèmes avec l'idée d'avoir des implants, d'avoir... Il y a aussi tout un aspect... Alors, c'est la même chose avec les radiations, c'est la même chose avec les virus. Il y a toute cette idée... Ça atteint le corps, ça atteint l'intégrité. Alors que les robots géants, ça n'atteint pas l'intégrité des humains, puisqu'ils sont à l'intérieur de la machine, mais ils sont dans un poste de pilotage. Ils ne sont pas atteints dans leur corps. Alors qu'en fait, le cyborg, ça atteint leur corps et ça atteint leur japonéité, d'une certaine manière. Alors que les robots géants, ça n'atteint pas leur japonéité. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Et maintenant.
Dans Gundam, ce que je trouvais intéressant dans ce manga, surtout vers la fin, c'est que les personnes, je crois que c'était de Jeru,
Zalem,
qui avaient la puce implantée, n'avaient pas conscience non. que, à leur naissance, années très panées, on avait installé cette puce et retiré le cerveau. Et ça arrive vraiment vers la fin du manga. Donc pendant 7 tomes à peu près, on suit Gali qui est une pure cyborg en pensant que en n'ayant aucune idée finalement que les gens qui sont censés être supérieurs dans la vie supérieure ne sont pas finalement son égal qu'elle essaie de retrouver. Et le fait, c'est ce que. Parce que c'était peut-être pas.
Bah là, j'étais...
une précision qui était vachement importante, je trouvais, de préciser que ces personnes avec la puce en cerveau n'en avaient même pas conscience. Ils pensaient être des humains totalement.
Mais on voit, il y a un aspect tragique, à partir du moment où ils en ont conscience, ils deviennent fous.
Ils deviennent fous, voilà.
Voilà. Voilà, c'est complètement fou. C'est-à-dire que justement, ils ne savent plus ce qu'ils sont. Ils sont humains. Vous voyez que. Exactement ça. Mais vous voyez, l'aspect tragique est là. Effectivement, j'étais très rapide sur Venom.
C'est un traumatisme.
Juste une question, j'avais une remarque concernant l'approche des Occidentaux sur par rapport au robot. Vous avez dit qu'on avait une vision beaucoup plus marquée par Terminator en voyant le robot comme étant une menace. Et que les Japonais ont une approche très positive.
Globalement,
en fait, je pense que l'approche positive est inhérente en fait à quasiment toute l'humanité. C'est juste que nous, on en a beaucoup moins. On est beaucoup moins confrontés aux robots pour l'instant. Là, je prends un exemple. Nous, on a acheté un petit robot qui nettoie. On lui a donné un nom.
Il
s'appelle Isaac.
Mais vous savez,
on a fait un lien avec lui. C'est juste que ça fait des années et des années que les Japonais font cette démarche-là, d'avoir des robots. Mais c'est juste que je pense que ce lien émotionnel avec les robots n'est pas une spécificité japonaise.
Non, ce qui est spécifique, c'est d'attribuer au robot le fait d'être une présence. L'idée, c'est que de dire que pour des personnes âgées, ça va être plus ou moins équivalent, ça va permettre d'être équivalent à une présence humaine.
Oui,
mais... Chez nous, on penserait, mais on pourrait penser à des vieux, si on disait, plutôt que d'engager des personnes, du personnel de maison pour s'occuper, on va engager des robots. Est-ce que ça serait bien perçu? Ça, c'est pas. Mais sur le fait d'attribuer des noms, il y a un truc, c'est que par exemple, on trouvait assez intéressant que beaucoup de gens, c'était en Allemagne, beaucoup de gens, quand ils vont à un distributeur automatique de billets, quand ils reçoivent l'argent, ils disent merci. Ce qui est déjà un rapport, alors qu'on a un automate. Qui n'a pas rien d'humain, hein, c'est même pas, il n'y a pas bipédie, rien de ça, et ils disent merci. On peut attribuer ça, qui sont des réflexes, mais le fait d'attribuer que ce soit une présence, que ça puisse être équivalent au fait d'avoir un humain ou un chien, c'est un truc, ça me permet de rebondir sur un truc que j'ai pas pu dire. Lorsque Mamoru Oshii a présenté le deuxième film de Ghost in the Shell à Cannes, la plupart des journalistes français lui posaient la question, mais le fait d'être électronisé, est-ce que c'est être humain encore ? Dans les journalistes japonais se posaient la question, il y a un des personnages qui s'appelle Batu, qui est aussi un cyborg, et il s'occupe d'un chien. Et pour les japonais, la question est, comment se fait-il qu'il s'occupe d'un chien ? Pourquoi s'intéresser autant les japonais ? L'une des interprétations possibles, c'est qu'un kami ne peut pas s'occuper d'un autre être vivant, ça n'a pas de sens. Un aspect comme ça, si on conçoit que c'est un esprit, pourquoi il va s'occuper ? C'est beaucoup plus problématique pour eux qu'ils s'occupent d'un autre être vivant. S'il est autonome, c'est un esprit, il n'a pas besoin d'être lié à un être vivant. Donc pour eux, ça leur posait beaucoup plus de problèmes. Alors que chez nous, quand on me pose la question, je n'ai jamais conçu comme étant un problème le fait du cyborg qui s'occupe d'un chien. Alors que pour eux, ça posait problème. Donc on voit que c'est un rapport un peu différent entre l'inanimé et l'animé chez eux. C'est pour ça que je dis que c'est une hypothèse, parce que je n'ai pas de données qui permettent d'aller suffisamment loin pour vous dire c'est comme ça. Mais j'essaye, mais justement, ces questions des journalistes japonais à Mamoru Oshii, à Cannes, qui me semblent un peu bizarres.
J'aurais posé une question au papa d'Isaac. Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez appelé par un prénom, justement parce que vous aviez une culture manga ?
On ne s'est même pas posé la question. Dès qu'on a ouvert, ouais. Il lui a donné un nom. En fait, je pense que par après, on y a un petit peu réfléchi, et c'est à partir du moment où il bouge tout seul, il a une existence. Mm-hmm. Et c'est, je ne pense pas que ça vienne de la culture.
Mais de la même manière qu'on donnerait un nom à un animal, là, c'est quelque chose de vivant, même si c'est mécanique.
Un mot très simple. Même
en Angleterre, moi j'ai bossé dans une entreprise où ils donnaient des noms aux machines spéciales qu'ils utilisaient parce que, semble-t-il, ça améliorait la fiabilité parce que les gens faisaient plus attention.
Ah, oui. Voilà.
Le fait même de donner des noms, autres que des noms de code et des choses comme ça.
Bien, bon, bah.
Ok, merci.